Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Aujourd'hui, dans Au fil des pages, nous feuilletons de saintes pages et ça fait du bien de temps en temps, surtout à l'approche de Noël, de nous rappeler que certains êtres de chair sont aussi des êtres de ciel. Ce sont les saints et c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec Sylvie Barnet. Bonjour Sylvie Barnet.
Bonjour Hélène Renard.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Metz. Vous enseignez l'histoire du christianisme et l'histoire des religions, je crois, je ne me trompe pas.
Non, pas du tout.
Et vous avez publié dans cette merveilleuse collection Découverte Gallimard, un livre qui vient de sortir et qui s'intitule « Les saints ». Des êtres de chair et de ciel. Il faut dire que c'est votre sujet. Est-ce que vous aimez les saints tout particulièrement ? Vous avez une dévotion pour les saints ?
Comme tout le monde, je les invoque en tout cas. Nous avons tous des saints qui nous sont chers et en particulier ceux qui portent nos prénoms.
Saints sont leurs noms. Qui sont nos saints patrons.
Voilà. Alors, saints sont leurs noms et nous portons les mêmes.
Voilà. Est-ce que le saint a toujours existé depuis le début du christianisme ? Est-ce qu'il y avait des saints avant, paraît-il ? Y a-t-il des saints dans la tradition juive ?
Alors, le saint, c'est une longue histoire et c'est d'abord l'histoire d'un mot. Et avant d'être une personne, le nom de saint a d'abord été un qualificatif synonyme de divin, hein, qui est désigné en hébreu sous le terme de kadosh. Ce qui est gadoche est saint. Et tout ce qui touche à Dieu est saint.
Donc, ce n'était pas au début une personne. Alors, quand les premiers saints, après Jésus-Christ, commençons le christianisme, les premiers saints, ça commence quand ?
Alors, les premiers saints, on va dire que ça commence avec le Christ lui-même, puisque dans les évangiles, il est lui-même qualifié par l'apôtre Paul de saint, de véridique. Et ceux qui le suivent, ses disciples, sont eux-mêmes appelés les gens de la voie, les frères, les saints. Donc on peut dire que les premiers saints, ce sont ceux qui se mettent à suivre le Christ tel qu'ils sont décrits dans les évangiles.
Mais après, il y a une histoire alors de la sainteté qui se déroule et l'Église peut-être prend des critères particuliers. Quels sont les premiers critères pour attribuer le mot saint à quelqu'un ?
Alors, il y a plusieurs étapes, mais on peut dire que dès les premiers siècles, parmi les saints, les frères et les gens de la voie, les évêques, l'Église, va très vite distinguer des hommes d'exception et parmi eux, les martyrs.
Les martyrs seront donc les premiers saints et la vénération des reliques va prendre beaucoup d'importance.
Oui. Alors, ceux qu'on appelle les martyrs au sens propre du terme, ce sont ceux qui vont imiter jusqu'à le vivre, jusqu'à l'expérimenter, le martyr du Christ. Hein. Et parmi eux, Étienne, qui sera considéré au IVe siècle comme le premier martyr. Précisément, au IVe siècle, on va découvrir ses reliques. Les reliques, en latin reliquiae, c'est ce qui reste des saints. Et le culte des saints va se construire autour du culte des reliques. On va venir toucher les reliques des saints dans toute la chrétienté, aussi bien en Orient qu'en Occident, au moment où celui-ci s'officialise et devient la religion d'État, donc après 313.
Après la conversion de l'empereur Constantin, qui lui-même est-il saint ? Est-il dans le calendrier des saints ?
Alors,
c'est Sainte Hélène, donc je le sais.
Alors, sa mère, oui. Alors, il y a même toute une légende pour raconter comment elle parvient à la sainteté, puisque précisément, dès qu'il y a quelqu'un qui est reconnu comme saint, c'est-à-dire en qui on reconnaît le visage du Christ, hein, qu'est-ce que c'est qu'un saint ? C'est celui que vous rencontrez dans la rue et qui va actualiser le visage du Christ. Alors, petit à petit, vont se mettre en place des critères de reconnaissance de ce visage. Parmi eux, les miracles, l'odeur de la sainteté, les vertus, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'un homme devient petit à petit divin, prend son visage divin, parvient à la déification qui est le but et la fin de la vie chrétienne.
Donc ces reliques dont vous parlez, on va avoir un très grand culte, disons, entre 4e siècle et jusqu'au 16e siècle,
alors,
jusqu'à la Réforme, parce que je crois que c'est quand même ça a été un problème justement avec la Réforme, les reliques, parce qu'on en faisait un peu un trafic, un commerce, non ?
Alors, tout le Moyen-Âge a vraiment vénéré les saints, les reliques ont circulé. Il y a des trafics bien avant le XVIe siècle. Déjà au Xe siècle, il y a des commerces qui s'établissent entre Rome et toutes les petites églises de la chrétienté pour faire venir qui des reliques des principaux martyrs romains, qui des nouveaux saints que l'on commence à vénérer dans toute la chrétienté. Mais il est vrai qu'au XVIe siècle, Luther va tonner contre le trafic des indulgences, mais aussi le trafic des reliques qui s'est mis en place dans toute la chrétienté. Et du haut de sa chair, il tonne en disant « Mais le saint, c'est ton frère, c'est celui qui est misérable, qui est pauvre et qui a froid et qui est dans la rue. » Hein, on croirait entendre l'abbé Pierre.
Un discours actuel. Oui.
Voilà.
Sylvie Barnet, vous venez d'écrire ce ravissant ouvrage qui est non seulement un bel objet, mais aussi évidemment puissamment argumenté, historiquement étayé, sur les saints des êtres de chair et de ciel dans la collection Découverte Gallimard. Quelle a été votre principale difficulté d'écriture avec cet ouvrage? Parce que les saints, je crois qu'il y en a plus de 10 000. Vous ne pouvez donc pas parler des 10 000 vu que l'ouvrage est tout de même très petit. Alors, quelle a été votre difficulté principale?
C'est une belle question parce que je dirais qu'elle résume toute la difficulté d'écriture et en même temps ce qui porte à écrire un livre sur un sujet comme celui-là. La difficulté, ça a été de considérer à travers les milliers et les milliers et les milliers de visages de saints, eh bien finalement, ce que signifie la sainteté dans le christianisme, voilà. Qui est de manifester et de révéler le visage du Christ sous ses formes multiples et innombrables.
Alors, est-ce qu'il y a autant de saints au fil des siècles? Est-ce qu'il y a des siècles où il y en a plus que d'autres?
Alors, on peut toujours quantifier et en Occident, on a un critère fiable qui est celui des canonisations.
Ah, qu'est-ce que c'est alors la canonisation? Une démarche officielle?
Alors, la canonisation, le mot canonisation, canonisé est un terme qui apparaît au Xe siècle. Le pape de Rome commence à canoniser un saint moine qui était un moine clunisien. Et à partir de ce moment-là, il y a une procédure de type juridique qui se met en place. C'est-à-dire que jusque-là, c'était la vox populi qui faisait le saint, relayé bien évidemment par des hommes d'église tels que les évêques, mais à partir du XIe siècle, la hiérarchie, je dirais, vient d'en haut. Hein, c'est le pape qui fait le saint, c'est Rome qui fait le saint.
Il y a une procédure.
Il y a une procédure juridique qui se met en place et qui, à partir du XIIIe siècle, va prendre une forme de plus en plus complexe. On va par exemple introduire des formes de procès. Hein, qu'on va appeler les procès de
avec
canonisation.
Avec des avocats?
Alors, avec un avocat chargé de défendre d'introduire la cause en canonisation.
Voilà, qu'on appellera un postulateur.
Voilà.
Je crois,
voilà. Et puis, il y aura aussi quelqu'un qui va faire office de bourreau. Hein, on va dire ça comme ça.
D'avocat du diable, l'appelle. Voilà.
Pour essayer de prouver ce qui pourrait empêcher la canonisation. Alors, en fonction de ce critère, on a, selon les siècles, depuis en tout cas le XIIIe siècle, le nombre de saints qui ont été canonisés par l'Église.
Avant, on est quelquefois un peu dans la légende. Après, on a au moins les documents historiques,
alors,
donc fiables.
C'est très compliqué, la légende et l'histoire, parce que le Moyen-Âge a toujours pensé l'histoire dans la légende. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du XIIIe siècle, on a une procédure qui canonise juridiquement un saint. Donc là, il n'y a pas de doute, autant de procès de canonisation aboutis donnant lieu à une grande fête, autant de saints.
Alors ça veut dire la grande fête, c'est-à-dire cette canonisation, ça donne une autorisation de fêter ce saint. Quel jour peut-on le fêter? Qui décide du jour?
Alors celui qui décide du jour, je dirais que c'est le futur saint lui-même, puisque lorsqu'il meurt, en fait, il meurt sur la terre pour naître au ciel. Un saint, c'est celui qui, en manifestant le visage divin, manifeste aux autres hommes quelque chose de l'ordre de la vie divine. C'est vraiment un être qui est déjà de la chair, qui est déjà de la terre et qui est déjà du ciel, hein, qui manifeste aux hommes ce que sera la vie au ciel.
Donc c'est le jour de sa mort qu'il est célébré. Oui. Et alors est-ce qu'il y a des degrés pour, est-ce qu'on peut être célébré dans une église locale ou dans une église nationale ou dans une église internationale?
Alors,
il y a des degrés de sainteté, si je puis dire?
Oui, c'est à la fin du XIVe siècle que la différence entre les bienheureux et les saints va peu à peu s'établir jusqu'à devenir elle-même juridique au lendemain du Concile de Trente au XVIe siècle. Alors, un bienheureux, si vous voulez, c'est la première étape pour parvenir à la sainteté. C'est-à-dire qu'avant d'être saint, on est bienheureux. C'est ainsi que dans l'Église, il y a un certain nombre de bienheureux qui deviennent saints. Par exemple, tout récemment, Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui était visitandine, qui a vécu au XVIIe siècle et qui a eu notamment des christophanies, des apparitions du Christ, elle a été bienheureuse dans un premier temps, et puis le pape Jean-Paul II l'a récemment canonisé.
Alors, il y a quelquefois donc un délai très long entre l'introduction de la cause et la déclaration que la personne est bienheureuse ou même qu'elle est canonisée. Le temps n'a rien à faire. Au fond, l'Église prend son temps.
Alors, l'Église prend son temps. On peut relire ce temps de plusieurs manières. Les historiens parlent de politique, ils utilisent le mot de politique papale. Alors il y a par exemple des saints qui sont canonisés, des hommes qui sont canonisés, c'est-à-dire qu'ils sont déclarés saints immédiatement après leur mort. Et puis au contraire, parfois, il faut attendre, comme dans le cas de Marguerite Marie Alacoque que je viens de citer, il faut attendre
plusieurs siècles
pour que le bienheureux devienne saint.
Alors ces saints, il y a un moyen de les reconnaître, c'est qu'en général, ils ont des attributs qui leur sont personnels. Alors par exemple, on peut dire que Saint Sébastien a des flèches. Oui. Pourquoi ?
Alors, Saint Sébastien a des flèches parce que la légende raconte que son martyr a eu lieu sous Dioclétien et que des archers de l'empereur l'ont emmené dans une forêt et l'ont percé de flèches. Et qu'est-ce qu'a fait Saint Sébastien ? Il n'est pas mort des flèches, il est ressuscité. Alors, c'est la raison pour laquelle son image perclue de flèches a été utilisée, par exemple, pendant les épidémies. Lorsqu'on est touché par la maladie, on est frappé, on est percé à l'image de Saint Sébastien. Et si Saint Sébastien est ressuscité, eh bien, il y a un espoir pour ceux qui sont malades de s'en sortir et en même temps d'invoquer le saint, donc dans le cadre d'une intercession.
C'est-à-dire. Alors, Sainte Thérèse de Lisieux qui a des roses.
Alors, Sainte Thérèse de Lisieux qui a des roses, c'est là encore toute une iconographie qui s'est mise en place après sa mort et qui renvoie à une phrase magnifique où elle dit qu'au ciel, elle aura les bras chargés de roses.
On le lui souhaite. Et le lion de Saint Jérôme, est-ce qu'il l'avait dressé ?
Alors là aussi, c'est une légende tardive qui se met en place au Moyen-Âge. En fait, Saint Jérôme emprunte son lion à Saint Jéronyme et la légende raconte qu'un lion qui fait peur à tout le monde vient le voir et que Saint Jérôme arrive à enlever l'épine qui est dans son pied infecté. Et à ce moment-là, le lion devient le plus doux des agneaux. On a là, bien entendu, encore une fois, une métaphore christique.
Alors, si vous voulez tout savoir sur les saints, vous promenez au travers des siècles dans cette histoire de la sainteté, eh bien, je vous recommande au fil des pages aujourd'hui le petit livre Découverte Gallimard, écrit par Sylvie Barnet, Les saints des êtres de chair et de ciel. Et j'en profite pour vous dire que dans cette même collection, elle est également l'auteur d'un joli petit livre sur la Vierge, femme au visage divin, donc dans la collection Découverte Gallimard. Merci Sylvie Barnet et à bientôt.
Merci Hélène Renard.